Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Nous sommes à la fin de 2023 et naturellement, on consacre à la tradition de dresser le bilan de l'année et revenir sur l'essentiel de ce qui a rythmé la vie économique africaine au cours de ces 12 derniers mois. Nous mettrons également le focus sur ce qu'il faut retenir des relations économiques entre le Maroc et ses partenaires du continent. Nous parlons de tout cela avec notre analyste habituel, Idriss Lingé, rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin. Tel est le principal sujet de Coémergence. Restez avec nous pour les détails.
Les échos de la semaine.
Mais avant de développer ces titres, direction le Sénégal, plus précisément à la Foire internationale de Dakar, la FIDAC qui en est à sa 31e édition, un événement commercial annuel qui attire de nombreux commerçants de la sous-région ouest africaine. Notre correspondante à Dakar, Marema Diop, y a fait un tour et vous allez l'entendre. Les produits marocains y sont également présents et y connaissent un franc succès. Suivons son reportage.
Au cœur de la 31e édition de la Foire internationale de Dakar FIDAC, les femmes transformatrices de produits locaux et halieutiques. Réunies autour d'une fédération, elles représentent leur pays, la Guinée-Bissau. Nous avons commencé à exposer ici à la Foire de Dakar depuis 2004, c'est une vingtaine d'années. Depuis lors, nous ne ratons jamais l'occasion, car la Foire nous permet d'exposer nos produits, les produits typiquement guinéens. Il y a des produits locaux, les produits halieutiques, les produits agricoles. Vraiment, cela nous permet de mettre en valeur ce que font les femmes de la Guinée.
Traditionnel de Guinée-Bissau, que nous ici pas bien à présenter la Foire.
Cette année, la Foire de Dakar rend hommage aux femmes à travers le thème « L'autonomisation de la femme pour un développement économique et social durable », un thème bien apprécié par les exposantes de la Guinée-Conakry.
Ça rend honneur à l'Afrique. Ça montre à l'Afrique qu'en développant une femme, tu as développé des milliers d'hommes et des milliers d'enfants. Parce que si la femme a des moyens, son mari en bénéficie et ses enfants en bénéficient.
La FIDAC est une plateforme économique d'échange, mais aussi une vitrine de la diversité culturelle africaine. Des expositions qui reflètent le savoir-faire africain. Cet exposant y valorise la culture burkinabé.
On nous connaît toujours avec nos produits. Voilà, on a le coton chez nous. Et on le fabrique en fil chez nous, on le fabrique en vêtements chez nous et on le met la couleur chez nous. Voilà, nous, les Burkina Faso, on a les Faso d'Anfani, on a le Bogola, on a le Coco Donda, on a le Cuir. Il y a beaucoup de choses chez nous.
Le Maroc, toujours fidèle à la rencontre depuis plus de 20 ans, le stand du Royaume est très visité par les Sénégalais.
C'est des sandales et des chaussures marocaines qui viennent du Maroc. Et c'est moi la seule exposante ici que je fais ce produit en fait. Et ça coûte bien, mashallah, ça marche bien. Les Sénégalaises, elles aiment beaucoup mes produits.
Vraiment, on a amené ça juste pour le produit marocain, pour les Sénégalaises. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont au Maroc et ils savent bien, bien le produit marocain.
Plus de 300 000 visiteurs étaient attendus pour la 31e édition de la Foire internationale de Dakar FIDAC, un chiffre loin d'être atteint selon les exposants d'année en année. La foire perd de son attrait.
Merci à vous, Marema Diop, correspondante de Médien depuis Dakar.
Coémergence, l'invité.
Il s'agit de notre analyste Idriss Lingé, rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofine que nous avons le plaisir de retrouver, Idriss Lingé que nous recevons chaque mois pour parler des faits marquants de l'actualité économique africaine. Et en cette fin d'année, nous allons voir avec lui ce qu'il faut retenir de l'année 2023. Bonjour à vous Idriss Lingé et bienvenue dans Coémergence. Alors, nous allons commencer par parler du Maroc, loi de proximité oblige. Alors, commençons donc par faire le point sur l'évolution des investissements marocains sur le continent. Alors Idriss Lingé, qu'est-ce qu'il faut retenir en 2003 en ce qui concerne ces investissements marocains sur le continent?
Le Maroc reste un des très gros investisseurs à travers l'Afrique, notamment sur des secteurs comme les télécoms, la finance, le BTP. Les mines, l'agriculture, l'agroalimentaire. Le Maroc, notamment en Afrique de l'Ouest, continue d'être un leader en matière de real estate. En Afrique de l'Ouest aussi, le Maroc parvient toujours à pousser pour ce qui est de la finance. Ensemble, les groupes chérifins que sont Banque Atlantique, le BCP notamment, Banque of Africa ou encore Atijari constituent le premier pôle bancaire dans la sous-région. Et aussi, on retrouve les Marocains dans l'immobilier, notamment à Abidjan ou encore au Sénégal. Mais bon, après, on n'a pas forcément assisté à des très très grosses annonces, nouvelles annonces d'investissement. Mais on peut penser qu'avec un Maroc qui continue d'être compétitif, on pourra relancer de nouveaux investissements marocains de grande envergure sur la partie Afrique subsaharienne. À ça, il faut aussi ajouter quelques initiatives de coopération et de solidarité que le Royaume a continué d'entretenir, et notamment le rôle important qu'il veut jouer dans le cadre de l'intégration commerciale à travers la zone des libres échanges continentales, et qui aujourd'hui est un objectif pour les dirigeants du Royaume.
En tout cas, le Maroc qui continue donc de développer ses relations économiques avec ses pays partenaires du continent et des investissements, donc appelés davantage à se diversifier. Alors, ma deuxième question, Idriss Lingé, est liée au secteur boursier en Afrique. Quelles sont les performances boursières sur le continent qu'on peut retenir à l'issue de cette année 2003 qui se termine?
Alors, si on veut parler de comment ont évolué les principales bourses africaines, on va commencer par dire que le marché le plus performant, c'est bien évidemment le marché du Zimbabwe. Oui, le Zimbabwe, ce n'est peut-être pas un pays qui est très connu du Maroc, mais c'est un pays d'Afrique australe. Il faut comprendre que la monnaie dans ce pays a complètement perdu de la valeur, alors les personnes préfèrent faire des placements sur des actifs boursiers, ce qui fait que ce marché est constamment, depuis 3 ans, le marché le plus performant du monde. En 2023, la progression de la valorisation boursière des entreprises qui y est cotée a atteint 926%, 926,8%. Aucun autre marché dans le monde n'a atteint ce niveau de performance. Après, en Afrique, nous avons le Malawi Stock Exchange. Évidemment, ça reste un petit marché, mais je préfère focaliser sur les marchés où on retrouve de grandes entreprises marocaines. C'est le cas, par exemple, de l'Égypte. L'Egyptian Stock Exchange, notamment l'indice des 30 entreprises les plus valorisées de ce marché, où on retrouve Atijari Wafa Bank comme une banque qui compte dans l'espace égyptien, a connu une amélioration de la valorisation boursière de l'ordre de 66,8%. Et évidemment, le Mazi est resté sur une zone positive, mais avec seulement une progression de 12,9%. On retrouve avant le Mazi la bourse du Botswana, la bourse du Ghana et la bourse de Zambie, notamment le Lusaka Stock Exchange. Donc, ça a été plutôt une très bonne année pour les bourses africaines. Pratiquement 14 à 13 des marchés financiers qui sont vraiment dynamiques sur le continent ont connu une évolution positive. contre seulement des baisses de valeurs boursières pour Saint-Marché. Mais maintenant, un autre marché qui est très important pour le Maroc, c'est bien évidemment la BRVM, où on retrouve des entreprises marocaines qui ont une place de choix. C'est le cas, par exemple, de la Société Ivoirienne de Banque, filiale du groupe Atijari Wafa, mais aussi de l'ensemble des filiales Bank of Africa qui sont cotées sur ce marché, ou encore le Sucre Ivoire. Bah, le marché financier de Côte d'Ivoire n'a pas aussi bien performé. Il affiche quand même une rentabilité positive de 4,7%, ce qui est une très bonne chose. Mais on peut soupçonner que pour l'année 2024 et même pour les années qui vont suivre, qu'il y aura une espèce de rééquilibrage, de correction, parce qu'aujourd'hui, le ratio de cours sur bénéfice est pratiquement de 9,9x, c'est-à-dire qu'il faut pratiquement 10 ans pour rentabiliser l'investissement actuel sur la BRVM, et on est au-dessus de la tendance moyenne des trois dernières années, qui était de 8,1%. Cela dit, la valeur du marché a beaucoup augmenté, mais pas aussi rapidement que les bénéfices ou encore les revenus des entreprises qui sont cotées. Donc voilà, les bourses africaines ont connu une très belle évolution et il restera très très à suivre ce qui va se passer en 2024.
Merci à vous pour tous ces éclairages, Idriss Lindjé. Alors l'autre question qui se pose, bien évidemment, elle est liée au financement des entreprises africaines par transactions financières privées. Alors, j'ai l'impression que beaucoup ne savent pas de quoi peut-être qu'il s'agit. À ce niveau-là, comment a évolué la situation sur le continent?
Alors, pour ce qui est du financement des initiatives privées, hein, on sait bien le financement des entreprises que le financement des fonds d'investissement, l'ensemble des activités dans ce domaine est répertoriée par l'agence Ecofin depuis 2017, et on peut déjà envisager que 2023 sera un record déjà en termes de nombre de transactions. Au 30 novembre, nous étions à 940 transactions, et entre-temps, plusieurs autres transactions se sont ajoutés, et nous pouvons penser que le record de 2019, qui était de 1071 transactions, sera atteint et peut-être même dépassé. Nous étions à pratiquement 19 000 et quelques 2 milliards à la fin novembre, et nous pouvons légitimement penser, avec les nouvelles transactions qui se sont ajoutées, qu'on a largement franchi ce cap, et évidemment l'agence Ecofin sera là pour donner les statistiques finales à mesure que nous améliorons la quantité d'informations que nous collectons dans ce domaine. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le financement du secteur privé par capitaux privés ou par les instituts de financement de développement, notamment qui s'occupent du secteur privé, c'est plutôt bien comporté. Maintenant, l'enjeu est celui de savoir si finalement le volume ou alors la valeur des capitaux qui auront été mobilisés a progressé aussi rapidement qu'on l'avait constaté au cours des trois dernières années. Et c'est quelque chose que nous allons essayer d'observer. Et puis, il faut garder à l'esprit que dans ces flux, le Maroc est resté aussi bien un gros investisseur qu'un bénéficiaire des investissements, tout comme l'Égypte, le Nigeria et certains pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, nous décortiquerons évidemment tous ces détails une fois qu'on aura compilé l'ensemble des données et qu'on pourra faire des analyses comparatives.
Autre fait marquant, Idriss Lindjé, c'est le fait qu'on ait senti durant cette année 2023 que la question, ou plutôt les débats sur la fiscalité internationale, se sont invités à l'ONU. Alors, pour les pays africains, qu'est-ce que cela veut dire?
Alors, c'est un moment fort qui marque une victoire pour l'Afrique sur la diplomatie internationale. Comme vous le savez, jusque-là, les négociations sur les questions de fiscalité au niveau global, au niveau mondial, était largement dominé par les travaux qui étaient menés par l'Organisation pour la coopération et le développement économique. mais de nombreuses voix dans la société civile internationale, y compris Tax Justice Network, une ONG basée à Londres, et Tax Justice Network Africa, son référent au niveau de l'Afrique, avaient critiqué une démarche qui n'était pas très inclusive. Et ça a pris beaucoup de temps, mais finalement, le groupe africain, soutenu par la Commission de l'Union africaine, par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, a porté la discussion au niveau de l'ONU. Et on a eu une première victoire qui est celle d'accepter que ces discussions soient désormais faites à l'ONU. Maintenant, évidemment, c'est une actualité majeure, même si elle n'a pas été beaucoup commentée par des médias africains. C'est dommage parce que l'Afrique a eu une grosse victoire et désormais la fiscalité mondiale va se négocier au niveau de l'ONU. Et évidemment, la vraie bataille commence. Il sera question de voir quel sera le contenu de ce cadre fiscal mondial. Les ONG sont déjà sur le terrain du plaidoyer, sont en train de se préparer. On risque d'assister à une période exceptionnelle parce que jusque-là, sur les questions d'enjeux internationaux, l'Afrique était souvent soutenue par des donateurs, notamment des pays occidentaux. Mais aujourd'hui, les pays africains seront justement opposés à ces pays occidentaux qui ont tous pratiquement voté contre ce projet de résolution. Et donc ça va être un moment intéressant pour l'Afrique et qui est en train progressivement de s'affirmer à côté d'autres initiatives comme par exemple construire un marché commun, construire une structure commune de stabilisation financière. Bref, on a senti derrière cette victoire du groupe africain la possibilité pour les Africains de gagner sur la diplomatie économique, sur d'autres terrains de bataille.
On ne peut pas parler de l'année 2023, Idriss Lingié, sans revenir, bien évidemment, sur cet événement majeur qu'est la COP28 qui s'est déroulée il y a de cela quelques semaines à Dubaï. Alors, de cette COP28, parlez-nous, mais surtout de ses résultats et implications pour le continent.
Alors, la conférence des parties sur les questions climatiques qui s'est déroulée à Dubaï a connu ce qu'on a appelé globalement une victoire pour l'Afrique, parce que certaines revendications de l'Afrique ont été prises en compte, mais en réalité, de la prise en compte à la mise en œuvre, il y a un gros chemin. C'est pas la première fois qu'une conférence des parties reconnaît des engagements qui sont nécessaires pour le continent africain, mais il ne me semble pas que cette conférence des parties a pris des engagements clairs et chiffrés qui permettront à l'Afrique de véritablement financer son adaptation ou alors la mitigation des changements climatiques. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on parle toujours d'une Afrique qui a besoin d'assistance et qui a besoin d'aide, mais on ne valorise pas réellement le potentiel de cette Afrique dans sa contribution pour l'absorption du carbone, mais aussi on ne voit pas que l'Afrique peut jouer un rôle important avec des minéraux de transition, même si on s'arrête seulement au niveau du gaz, qui est moins polluant que le pétrole ou le charbon, qui sont des ressources vraiment polluantes. L'Afrique regorge aujourd'hui de gros potentiel en termes de gaz. Peut-être seule, elle ne fait pas toujours le poids, mais enfin, peut-être individuellement, les pays ne font pas le poids, mais pris collectivement, l'ensemble des pays africains, qu'on aille du Mozambique, en passant par la Guinée équatoriale, l'Algérie, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, tous ces pays ont un potentiel et ce potentiel peut permettre à l'Afrique de jouer un rôle important dans la transition énergétique. Donc la COP28, c'était un premier pas peut-être, mais pour l'Afrique, il faudra davantage de concrétisation. Et enfin, cette conférence a une fois de plus raté l'occasion de rappeler qu'on peut avoir une fiscalité plus juste qui permettrait de financer le changement climatique et qu'on peut avoir moins de subventions sur les énergies fossiles et véritablement soutenir des économies qui sont en transition dans le cadre d'une solidarité globale. C'était assez intéressant, mais les Africains attendent encore des choses concrètes et doivent travailler à concrétiser ces choses.
Alors, Idriss Lindjé, il y a quand même des signaux ou des signes d'espoir à travers les pays du continent. Selon vous, pour l'année à venir, qu'est-ce qui peut nous redonner de l'espoir par rapport à l'évolution économique du continent?
Alors, c'est une excellente question parce que, évidemment, 2023 a été secoué par des nouveaux changements de pouvoir qui sont survenus à travers des coups de force, en espérant que pour les populations, le prix à payer ne sera pas très important. Mais à côté de ça, il y a vraiment lieu de se réjouir de bonnes nouvelles. Déjà, la première chose, c'est qu'on se rend compte qu'un pays comme le Nigeria est en train de se réveiller, notamment avec son secteur gazier. Il est déjà le premier pays exportateur de pétrole et producteur de pétrole en Afrique. Il pourrait le devenir bientôt aussi pour le gaz. C'est la première réserve de gaz africaine, la 9e réserve de gaz au monde. Et il multiplie les signatures, les contrats. Et on peut aussi annoncer parmi les bonnes nouvelles le lancement de la raffinerie de Dangote qui produira aussi bien des produits dérivés du pétrole que de l'engrais. Après, on ne sait pas comment est-ce que ça va le positionner sur les marchés parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont déjà dans le domaine. Le Sénégal pourrait commencer à exploiter son gaz dans le gisement de Grande Tortue, ou même la Côte d'Ivoire pourrait sérieusement avancer avec ses gisements de Grande Baleine. Et on a aussi assisté à une Afrique qui était résiliente, des marchés boursiers qui ont continué de générer beaucoup de bénéfices pour les investisseurs, des dividendes qui ont été distribués, la croissance qui est de nouveau au rendez-vous, le transport aérien qui est en train de se réveiller, les pertes pour les compagnies aériennes africaines ont presque été ramenées à zéro selon l'IATA. On sera autour de pertes de, je pense, 300 millions de dollars, alors que jusque-là, avec la COVID et les implications qui ont suivi, on essuyait des pertes importantes. Et sur le plan politique, on peut aussi saluer l'arrivée des transitions, même si ça reste difficilement accepté. On assiste à une réélection plus ou moins acceptée en Égypte. Les tensions qui existaient jusque-là essayent de trouver des voies diplomatiques. Évidemment, le Soudan, c'est un problème. Mais on sent une Afrique qui est en train de se réveiller. On sent une Afrique qui est en train de vouloir prendre la parole. Une Afrique qui est en train de vouloir reprendre son destin en main. Et ça, c'est un signe d'espoir dans ce monde qui refile autant de pression au continent et où on a parfois l'impression que le système global n'est plus suffisant à répondre aux besoins des populations, des 1,2 milliard des habitants de cette région.
Merci à vous, Idriss Lindjé, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN, donc, qui est spécialisée dans l'actualité financière et économique du continent. Ce fut un plaisir de vous recevoir tout au long de l'année 2023 et aujourd'hui de faire donc l'essentiel de ce qui a fait l'actualité économique africaine durant cette année. Merci à vous, Idriss Lindjé.
Merci Omar Baldé et merci à tous vos auditeurs qui nous ont écoutés. Je vous souhaite tous mes vœux les meilleurs pour ce début d'année et j'espère qu'ensemble avec l'agence ECOFIN, nous allons continuer d'explorer les questions africaines qui sont très importantes, aussi bien pour les Marocains, mais finalement aussi bien pour vos auditeurs qui vous écoutent à partir de l'Afrique subsaharienne.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituel. On vous souhaite une très belle fin d'année 2023 et surtout, par anticipation, une heureuse année 2024. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Medium.